Bonjour, vous écoutez l'émission Ondes Positives, une petite pause le mardi à 13h et le samedi à 21h pour nous aider, nous encourager à voir la vie avec envie, optimisme et bonne humeur. Aujourd'hui, j'accueille Nadine Mangea. Bonjour Nadine.
Bonjour Dorothée.
Nadine, une femme solaire qui pose ses beaux yeux verts émerveillés sur la vie et le monde. Nadine, tu es sophrologue et artiste mosaïste en Tarn-et-Garonne. Mmh. Et tu viens nous parler aujourd'hui d'émerveillement.
Oui, d'émerveillement, comme tu dis.
Ton message positif, ça pourrait être « émerveillez-vous ».
Tout à fait, tout à fait. Mais je dirais mieux encore. Quand nous cessons de nous émerveiller, nous arrêtons à croire en la vie.
D'accord. Alors, c'est pour toi, l'émerveillement et vivre, c'est indissociable.
Exact.
Alors, ça serait quoi ta définition personnelle de l'émerveillement?
Ben, disons s'émerveiller par toutes des petites choses. Mm-hmm. Être dans la concentration et dans la contemplation.
Oui.
La nature, par exemple, tout simplement un lever de soleil ou un coucher de soleil, un avion qui trace une ligne blanche dans le ciel, mm-hmm. c'est tout simple, un tour de magie dans un spectacle.
Ouais.
Ce qui est important, pourvu que cela vous touche et que vous fassiez arrêter le temps, juste quelques minutes.
D'accord. Donc c'est si je comprends bien, s'émerveiller, c'est aussi vivre le moment présent.
Vivre pleinement, chaque instant présent.
Mmh. D'accord, donc c'est ta définition.
C'est ma définition.
Ok. En quoi cet émerveillement permet de vivre la vie d'une façon plus positive? Quel est le lien?
Le lien, c'est pour moi la sophrologie en fait.
Oui.
Plus je travaille, plus je m'entraîne et plus je remarque que l'émerveillement est présent. À chaque instant, en fait. L'émerveillement, là, d'être ensemble, de partager toutes les deux ce moment.
Ouais.
Par exemple.
Alors, émerveillement, dans le mot émerveillement, il y a une racine de merveilleux,
hein. Merveille.
De merveille. Alors, moi, j'y vois aussi, quelque part, un peu de magie, comme si on voyait la magie de la vie.
C'est un mot peut-être un peu enfantin. L'émerveillement est souvent accompagné, par l'enfance. Mmh. En fait. Mais ce qui est bien, c'est tout au long de la vie de conserver cet émerveillement.
De l'enfant.
De l'enfant.
D'accord. Alors justement, puisque tu parles de l'enfance, toi, tu as toujours été une personne émerveillée.
Oui.
Tu étais déjà une petite fille émerveillée.
Oui.
Comme exact. Si cet émerveillement, tu le portes en toi naturellement depuis
oui,
toujours.
Tout à fait, c'est vrai. Depuis toute petite fille, j'ai toujours été dans l'émerveillement. Dans mmh. l'admiration, j'éprouvais des sentiments face à ce qui est grand et beau.
Ouais.
C'est l'émerveillement de l'enfance.
Ouais.
En fait.
Alors par exemple, qu'est-ce qui t'émerveillait quand tu étais petite, qui était grand et beau?
Alors surtout, ce que j'adorais, c'était les cours de géographie.
Ouais.
Dans laquelle la maîtresse nous parlait de l'immensité de l'univers, des galaxies,
ouais.
des étoiles et la beauté de notre planète bleue.
Elle vous montrait des photos, c'est ça?
Des photos, oui. Et même encore aujourd'hui, dès qu'il y a un documentaire, tu vois, qui passe à la télévision mm-hmm. concernant l'univers ou voir notre Terre, notre belle planète bleue vue de l'univers,
ouais.
je suis très passionnée par ça.
D'accord, ça t'émerveille. Hein.
Tout à fait.
Ok. Et puis aussi, tu étais émerveillée par des choses peut-être un peu moins grandes. Paris, je crois, hein?
Oui, Paris, avec ma grand-mère, oui. Lorsque j'avais 10-11 ans, je partais en vacances chez elle. Et elle habitait à la Plaine-Saint-Denis. Mm-hmm. C'est plus du tout la Plaine-Saint-Denis aujourd'hui, n'est plus du tout la Plaine-Saint-Denis que j'ai connue, petite oui. fille. Et nous allions visiter Paris.
Oui.
Donc l'immensité de Paris, la Tour Eiffel, le musée Grévin. Je mm-hmm. garde un merveilleux souvenir du musée Grévin. Et le Louvre. Le Louvre, je crois qu'il nous a fallu 4-5 jours mmh. pour visiter le Louvre entièrement.
Petit bout par petit bout.
Et surtout, la victoire de Samothrace.
D'accord.
Là, c'était l'émerveillement, voir cette statue là, au-dessus des escaliers, les ailes très, très dépliée. Mmh. Voilà, j'avais 11 ans et j'étais dans l'émerveillement.
Et oui. Tu te souviens bien de ça, de cet émerveillement oui. vécu, hein?
Oui, tout à fait.
D'accord. Ouais. Alors, les choses belles et grandes t'émerveillaient et puis l'humain aussi t'émerveillait.
Oui, bien sûr. L'humain, comment te dire, l'humain, déjà ma famille. Mmh. Hein, surtout, très important, j'ai toujours été très heureuse, bien entourée de toute ma famille, très aimée de mes parents, mise en confiance aussi. Mmh. Et puis aussi, le rapport aujourd'hui que j'ai avec l'humain, le rapport de relation d'aide,
oui.
d'être proche des gens, d'essayer de les comprendre, d'être sans jugement. Ça fait partie de ma profession aujourd'hui.
Ouais. Donc la relation à l'autre, les échanges entre humains t'émerveillent.
Oui, oui, ouais. À chaque instant.
Est-ce que tu penses qu'il faut aimer pour être émerveillé?
Oui, tout à fait. Mm-hmm. C'est très important d'aimer les gens, enfin, à mon avis.
Oui, il y a une notion d'amour donc dans l'émerveillement.
Tout à fait, aussi, oui, bien sûr. Beaucoup, beaucoup d'amour, oui. Et... lorsque l'on donne de l'amour aux gens, automatiquement, on a un retour.
Oui.
Et ça, c'est important aussi pour nous.
Alors, tu te souviens très bien d'être émerveillée par l'arrivée de ton petit frère.
Ah oui.
Donc, tu avais 10 ans quand il est né.
Oui, on a 10 ans d'écart.
Oui.
Et je me souviens, lorsque je suis arrivée à la clinique avec mon père... j'ai vu ce petit bonhomme avec plein de cheveux tout noirs et dire qu'aujourd'hui il est blond. Mmh. Enfin, il a les cheveux blancs, mais il était blond après. Et ce petit bonhomme là, qui dormait sereinement, c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Et d'ailleurs, Xavier a fêté son anniversaire il y a pas très longtemps et je lui ai envoyé un petit message comme de quoi ce moment est gravé dans ma mémoire.
Ouais, c'est un témoignage touchant parce que on a plutôt l'habitude d'avoir des témoignages de jalousie. Quand mon petit frère est arrivé, je me suis dit ben zut, va falloir partager le territoire avec lui. Donc c'est intéressant d'avoir aussi des témoignages de personnes qui ont été émerveillées par un bébé. Mmh.
Mmh. Un petit être qui vient de naître et toute la vie est devant lui en fait. À cette époque-là, je le voyais comme mon petit frère que j'allais pouvoir câliner, dorloter.
Mmh, c'est ce lien d'amour aussi, hein. C'est oui, encore l'amour encore qui s'exprime l'amour, oui. dans l'émerveillement.
Oui, tout à fait.
Et puis tu m'as parlé aussi du souvenir du jour de ton mariage.
Oui.
Là aussi, c'est un autre moment d'émerveillement.
Oui, tout à fait. Toute la famille était là. Ma robe blanche.
Ouais.
Mon bouquet, un très joli bouquet de fleurs, de roses blanches qui tombaient. Et bon, la famille, mes racines qui étaient autour de moi.
Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as vécu ce jour-là dans la contemplation du moment
oui,
présent.
Oui, contemplation à tout point de vue, déjà à la mairie, à l'église, la sortie de l'église.
Donc ça, c'est un message très positif. Contempler le moment présent, surtout les moments qui sont rares et précieux, hein, comme un mariage, plutôt que de vivre ces moments-là dans le stress, que tout se passe comme il faut, que tout se passe comme on l'a imaginé, comme on l'a organisé. C'est un regard différent sur les choses et sur les événements qu'on vit, qu'on organise.
Tout à fait. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai le souvenir, j'étais très calme, très paisible.
Mmh.
Et très heureuse, bien sûr.
Alors, justement, tu dis que l'émerveillement, c'est un appel au calme.
Oui, c'est un appel au calme, un appel à la sérénité aussi, puisqu'automatiquement, nous sommes dans la contemplation.
Mmh.
Donc, c'est une ressource pour nous. On se recentre aussi dans l'émerveillement,
d'accord.
À mon avis.
Mmh. Donc, si on veut s'apaiser, une bonne méthode, c'est de s'émerveiller de ce qui se passe autour de nous.
Tout à fait, tout à fait. Être dans la contemplation et s'émerveiller de ce que l'on voit, en fait.
D'accord.
S'émerveiller des couleurs, s'émerveiller d'un ciel bleu, s'émerveiller devant un arbre, tout simplement.
Ok.
Voilà.
Alors, puisqu'on a parlé de ta vie de petite fille qui devient une femme, puisqu'on est arrivé au mariage, on va faire une pause pour écouter la première chanson que tu as choisie. C'est un titre évocateur, « First Be a Woman » de Gloria Gaynor.
First be a woman.
Alors Nadine, qu'est-ce qu'elle t'évoque cette chanson ?
Cette chanson m'évoque en fait la femme, la femme dans toute sa beauté, la femme dans toute sa splendeur, ça il ne faut pas l'oublier.
Ouais.
Prendre soin de soi, prendre soin de son corps,
ouais.
Aimer son corps, essayer d'aimer son corps.
D'accord.
Mais ça s'apprend.
On peut s'émerveiller de son corps ?
Oui.
Ouais. Malgré ce que la société nous impose et les images des magazines et ces modèles parfaits auxquels on est censé ressembler.
Oui, oui, oui. La sophrologie peut nous aider à ça, en fait. À aimer son corps, petit à petit, s'accepter.
Oui.
S'accepter tel que l'on est, que l'on soit fine, trop maigre ou avec des rondeurs. Mais le corps est beau. Le corps est beau.
C'est vrai que c'est une machine merveilleuse et qu'on peut au moins reconnaître le merveilleux de toute cette cet univers qui se met en marche et qui s'harmonise et qui fonctionne généralement parfaitement. Hein.
Tout à fait. Oui.
Après, bon, l'esthétique, c'est une autre chose. Admirer l'esthétique, c'est encore une autre chose.
Disons qu'il faut prendre soin de soi.
Oui.
Ça, c'est très important. Femme, qu'on soit femme ou homme, il faut prendre soin de soi le plus possible.
Oui.
À mon avis.
Alors Nadine, donc tu parles de sophrologie, hein, et c'est normal, tu es sophrologue. Mais avant d'être sophrologue et artiste, tu as commencé par vendre des voitures.
Oui, oui, des voitures, des très belles voitures sportives.
Oui.
Et pendant 17 ans, 17 ans et demi, je vendais les voitures. Les voitures.
Et puis après, tu as fait autre chose, et notamment de la gestion du personnel, la direction des ressources humaines.
Hein. Exact, oui, en milieu médical.
Ouais. Et en fait, c'est ces expériences qui te montrent encore un peu plus à quel point tu aimes les gens.
Oui, tout à fait. Avec déjà, lorsque j'étais concessionnaire, j'aimais mes clients, bien sûr. Et ensuite, en milieu hospitalier, j'aimais mon personnel. J'étais très proche de mon personnel.
D'accord. Donc toi, c'est vraiment la relation dans toute l'humanité, dans le partage, dans le respect des besoins de l'autre. C'est ça qui t'intéresse.
J'étais très à l'écoute et je faisais attention et je faisais en sorte que le personnel soit bien dans leur milieu de leur travail.
D'accord. Et à un moment de ta vie professionnelle, ça ne va pas très bien, hein, et décides en tant que patiente de te faire accompagner, de te faire aider par des séances de sophrologie.
Oui, tout à fait. J'ai pratiqué 10 séances de sophrologie.
Ouais.
Pour pouvoir m'apaiser, pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir me recentrer sur moi-même.
D'accord.
Et là, il s'est ouvert une porte en moi et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses.
D'accord. Voilà. Tu as eu l'intuition que c'était ça qu'il fallait que tu fasses, que tu deviennes sophrologue, ou tu t'es dit, ah ben tiens, c'est pas mal, ça pourrait me correspondre. C'était de l'ordre de l'intuition ou de l'ordre du raisonnement en fait?
Dans un premier temps, c'était de l'ordre de l'intuition, et au fur et à mesure des séances, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je me dirige vers ça. Parce que j'ai toujours été en relation d'aide, et là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses, et c'est ta prochaine profession.
En fait. Quand tu dis j'ai toujours été en relation d'aide, c'est-à-dire que tu as toujours écouté les gens, c'est ça que tu veux dire ?
Écouter les gens, les entendre, et être proche d'eux aussi, voilà, mais sans jugement, sans aucun jugement. Parce que à partir du moment où on commence à être dans le jugement et juger les gens, je pense qu'il faut pas le faire.
Ça crée de la distance.
Ça crée de la distance. Tout à fait.
Et toi, tu t'es toujours sentie proche, même petite, quand tu étais cette petite fille émerveillée, tu te sentais déjà proche des gens.
Oui, en cours de récréation, j'avais les copines qui venaient me voir, me raconter un peu leurs petits soucis avec les parents, les grands-parents.
Ouais.
J'étais déjà à leur écoute.
D'accord. Et c'est en ça que tu dis que déjà tu étais en relation d'aide à cette époque, sans le savoir, évidemment.
Sans le savoir, bien sûr. J'ai toujours été proche des gens, en fait.
Alors, la sophrologie, on en entend beaucoup parler. De nombreuses personnes font des séances de sophrologie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste?
Alors, je pratique la sophrologie caïssédienne. Alors, caïssédienne, tu vas me demander qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Donc, c'est une méthode qui a été créée par le professeur Alfonso Caicedo. Là, tu comprends.
D'accord.
Caicedo, il a donné son nom à sa méthode en 1960.
Oui.
Et c'est une méthode avec des exercices très simples qui aident le patient dans un premier temps, dans un tout premier temps, à réapprendre à respirer.
Oui.
Pour pouvoir se détendre. Voilà. Ça, c'est les techniques basiques.
D'accord, de la respiration.
De la respiration. Et petit à petit, il y a tellement un panel tellement important de techniques que là, je me dirige et je choisis là où les techniques les plus appropriées pour mes patients, en fait. Et la sophrologie, petit à petit, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte un calme intérieur, une paix intérieure. On peut se ressourcer, on peut se recentrer sur soi-même, suivant la direction qu'on a choisie ensemble, hein, le développement personnel. Mm-hmm. Et pour aller, je dirais, jusqu'à la sérénité, et je dirais même atteindre enfin le bien-être.
Oui.
Tant désiré par les gens, en fait.
D'accord. Donc, c'est de la relaxation, de la méditation.
C'est de la relaxation dynamique, en fait. Oui. Relaxation détente, dynamique dans le mouvement.
D'accord. Voilà. Donc, il peut y avoir des mouvements
Il peut y avoir des mouvements. Mm-hmm. Pas dans les premières techniques, mais petit à petit, en relaxation dynamique, on fait quelques mouvements pour bien prendre conscience de la présence du corps dans la conscience. Et ça, c'est très fin.
D'accord.
C'est agréable.
C'est se remettre en contact avec sa propre existence, quelque part,
oui,
alors. Se sentir exister.
Oui. Oui. Pour obtenir, enfin, une vie pleine de sens, je dirais. Mm-hmm. C'est-à-dire que plus le patient positive, mieux il se sent dans son corps et dans son esprit.
Oui.
Et automatiquement, il arrive vers une existence pleine de sens, bien remplie.
Oui.
Et tant qu'on a la santé, je dis, tant que la santé est présente, tout le reste s'arrange toujours.
Mm-hmm.
Voilà, la santé, c'est un petit trésor, il ne faut pas l'oublier.
Ouais.
Il faut en prendre conscience.
Mm-hmm. Et quand justement on n'a plus cette santé, est-ce que la sophrologie, elle peut aider à la retrouver?
Disons que petit à petit, par rapport à l'accompagnement que l'on offre à nos patients, mm-hmm. enfin, c'est surtout un accompagnement pour pouvoir rester justement dans ce positif, en fait.
D'accord.
Voilà. Parce que plus vous allez positiver, plus le patient peut positiver, mm-hmm. plus il peut trouver une énergie pour aller vers la guérison.
D'accord, ok. Voilà. Donc ça ne guérit pas, mais ça accompagne.
Ça accompagne, on ne soigne pas, on ne guérit pas.
Oui,
non,
oui.
Pas du tout. La sophrologie, c'est un accompagnement.
D'accord, ça mobilise des ressources positives,
tout
des images
fait.
Positives qui aident la personne à se sentir mieux. D'accord.
Voilà.
Ok. Et tu me disais que tu es cet émerveillement que tu cultives, eh bien tu le nourris aussi en voyant les personnes que tu accompagnes et qui arrivent à aller mieux.
Oui, tout à fait. Ce qui est merveilleux pour moi, voilà, je viens de dire le mot merveilleux.
Ouais.
c'est de voir l'évolution de mes patients
mm-hmm.
par rapport à leur projet de développement personnel qu'ils ont choisi. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est d'être émerveillé lorsqu'ils ouvrent les yeux après une séance de sophrologie. Parce mm-hmm. qu'en sophrologie, on travaille les yeux fermés, bien sûr.
Oui.
Et après la séance, lorsqu'ils ouvrent les yeux, là, je suis émerveillée parce que je vois qu'ils sont dans un climat de bien-être.
Oui.
Ils ont la peau beaucoup plus détendue, le visage est serein
mm-hmm.
et les yeux pétillants.
D'accord.
Donc, c'est un émerveillement, bien sûr, pour moi.
Ouais. Et eux, est-ce qu'ils sentent qu'ils sont différents et est-ce qu'ils s'émerveillent de cet état différent dans lequel ils arrivent à la fin du travail?
Au départ, ils sont surpris.
Mm-hmm.
Ils trouvent cela bizarre. Combien de patients me disent oh, « c'est bizarre, mm-hmm. c'est drôle, c'est... » Mais qu'est-ce que je suis bien, voilà.
D'accord.
Donc c'est eux aussi, oui. Je pense qu'ils sont dans l'émerveillement, oui.
Et est-ce que c'est possible de faire des séances de sophrologie tout seul chez soi?
Oui, je leur conseille d'ailleurs de s'entraîner.
Ouais.
Plus le patient va s'entraîner chez lui, mieux il sera en fait dans la tête et dans le corps. Il va retrouver un équilibre.
Ouais. C'est comme une gymnastique de santé qu'on peut faire
tout
au quotidien.
Fait. Tout à fait. C'est
d'accord.
Exact.
Donc la sophrologie, bon, déjà tu aimais les gens, mais en plus la sophrologie t'a incité, aidé à encore plus les aimer.
Oui, tout à fait. Nous avons des relations un échange, voilà.
Mm-hmm.
Un échange très privé, je dirais, parce que je fais beaucoup de séances individuelles,
oui.
Je fais des séances de groupe aussi, quelques séances de groupe, mais je pratique le plus souvent des séances individuelles.
D'accord. Ah, tu dis d'ailleurs, mes patients, je les dorlote, je les bichonne.
Je les chouchoute.
Je les chouchoute, oui, on a l'impression que, voilà, on est pris en main par toi, par ta bienveillance, par ton amour.
Oui, l'amour que je leur porte aussi, oui, mm-hmm. Tout à fait.
Bon, alors on parle d'amour, de bienveillance. On va écouter, je pense que c'est le bon moment, L'envie d'aimer. C'est la deuxième chanson que tu as sélectionnée. C'est un extrait de la comédie musicale Les Dix Commandements. Et là, c'est Daniel Lévy qui chante L'envie
Daniel
d'aimer.
Lévy, oh.
L'amour tellement possible, l'amour à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment, c'est tellement rien. Tout le temps, ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne. Ce soir.
dirait, Nadine, que tu as un petit faible pour Daniel.
Oui, sa voix et l'homme, en fait. Oui, les deux, la voix et l'homme.
C'est pour ces deux raisons que tu as choisi cet extrait ?
Oui, oui, et j'adore sa voix. Il m'emmène et voilà, je suis à l'écoute de sa voix et ça me fait vibrer, ça me fait...
Ouais.
Voilà, et j'adore cette chanson parce que c'est la réalité, l'envie d'aimer.
Mmh. Alors j'ai pris un petit passage de la chanson. C'est tellement simple l'amour, tellement possible l'amour. À qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment. Et j'ai l'impression que ça résume un peu ce que tu dis aussi en sophrologie.
L'amour, il faut y croire de toute façon. Et un amour entre deux êtres, ça s'entretient. Voilà, jour après jour.
Et puis un amour pour soi-même aussi, ça s'entretient.
Et un amour pour soi-même, bien sûr. Sans être égoïste, en fait.
Oui, sans être égoïste et mégalo. Quand on dit l'amour de soi-même, c'est plutôt, c'est pas regarder je suis le plus fort, c'est plutôt
pas du tout.
De la bienveillance avec soi-même.
Oui, c'est ça.
Et il dit à qui l'entend et regarde autour. Donc ça veut dire que il faut regarder, écouter, goûter. Il y a quelque chose en fait de la sensation, de la perception.
Oui, tout à fait. J'ai le souvenir, je reviens vers mon enfance.
Oui.
Nous parlons d'amour et j'étais émerveillée par rapport à l'amour que portaient mes parents l'un envers l'autre. Mon père n'est plus là malheureusement aujourd'hui et j'ai toujours été accompagnée de cet amour, mes parents qui s'aimaient vraiment quoi.
Ouais.
Donc
tu as vécu en ça en tant qu'enfant en conscience de sentir
en tant qu'enfant, en tant que femme et
ouais, sentir ses parents s'aimer.
Oui, c'est merveilleux pour un enfant.
Merveilleux, on y est encore dedans,
voilà,
hein, dans le merveilleux.
Je l'ai dit une fois de plus.
Alors bon, toi Nadine, ton histoire, la personne que tu es fait que tu es dans l'amour et l'émerveillement tous les jours de ta vie. C'est comme ça, c'est naturel.
C'est naturel, oui.
Comment on peut s'entraîner à s'émerveiller quand ce n'est pas naturel ?
À mon avis, il faut déjà se poser. Essayer de plus avoir de pensées négatives, de plus être dans le négatif.
Oui.
Et prendre conscience que la vie est belle, en fait.
Oui.
Et d'être dans la, comme je disais tout à l'heure, dans la contemplation, aussi bien de la nature ou autre, quoi.
Tu m'as parlé du réveil des cinq sens.
Oui, mettre ses cinq sens en éveil.
Oui, ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire, c'est simple, par exemple, se poser devant un endroit de la nature, tout simplement, de se mettre dans la contemplation et de s'apaiser et de mettre ses cinq sens en éveil, c'est-à-dire fermer les yeux pour commencer et sentir le vent qui caresse notre visage, nos cheveux, écouter les bruits qui nous entourent, peut-être percevoir des odeurs qui nous entourent ou des saveurs, ou, voilà, les cinq sens sont en éveil.
D'accord.
Et aussi au quotidien, par exemple, prendre du temps pour faire les choses, quelque chose de simple, prendre du temps le matin quand on se prépare avant d'aller au travail, par exemple sous la douche. Mettre nos cinq sens en éveil, c'est-à-dire sentir l'odeur du gel douche, prendre le temps de caresser son corps avec la mousse, voilà, pour prendre conscience de l'empreinte du corps, c'est-à-dire apprivoiser la présence du corps dans la conscience et petit à petit positiver sur nous-mêmes en fait.
Ouais. Quand tu dis prendre le temps, en fait, c'est pas que ça va demander des minutes supplémentaires. Non. C'est simplement une prise de conscience qu'on est en train de faire ce que l'on fait.
Oui, exact. C'est-à-dire ralentir un petit peu nos gestes, tout simplement.
Oui.
Et prendre conscience de la présence du corps, ça c'est très important. Et nos cinq sens, en fait, ils sont toujours en éveil.
Oui.
Mais ça, on l'ignore en fait.
Oui, on n'écoute pas.
On fait pas attention.
Oui.
Voilà.
On préfère être là dans le mental, en train de ressasser ce qu'on a fait dans la journée ou ce qu'il faut faire demain, etc.
Oui, oui, oui.
Et on n'est pas en conscience avec soi-même.
Hein.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Ok, donc ça c'est une bonne piste pour se sentir vivre et ouvrir la porte de l'émerveillement.
Tout à fait. Tout à fait, Dorothée.
Merci, Nadine. Alors, on va parler maintenant de ta vie d'artiste. Mmh. Parce que tu es sophrologue, mais tu es aussi artiste.
Mmh.
Artiste mosaïste. Est-ce que tu peux nous dire, en art contemporain, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste?
Ça consiste à aimer le vert, déjà. Aimer la transparence du vert.
Mmh.
Aimer les couleurs.
Oui.
Aimer travailler les volumes, parce que je travaille beaucoup de volumes.
Oui. Hein,
et couper le verre de façon à donner un mouvement au verre.
D'accord.
Voilà.
Donc, ça veut dire que tu vas pas faire des tableaux à plat, mais tu vas faire des objets en volume.
Tout à fait.
D'accord.
J'interprète des objets en volume.
D'accord. Et avec des petits bouts de verre, alors?
Avec des petits bouts de verre que je coupe de façon particulière pour donner un mouvement.
Donc, par exemple, en triangle ou en carré ou en rond?
En arrondi. Moi, j'aime les lignes arrondies. Donc, automatiquement, ça donne un mouvement. Ça donne une transparence au verre.
Qu'est-ce qui t'émerveille dans ce travail d'artiste?
Ce qui m'émerveille, c'est le lâcher prise que l'on peut obtenir lorsque nous sommes dans une démarche de création.
D'accord.
Pendant que je crée, je ne pense absolument à rien du tout.
D'accord.
Je suis concentrée et je suis, je laisse la magie se faire en fait.
Mmh.
Voilà.
Ça veut dire que tu as pas un objectif déterminé de la pièce telle que tu as envie
pas
de
vraiment,
la faire.
Pas vraiment, non. Je laisse faire le phénomène, tout simplement.
Mmh.
Et je choisis les couleurs que j'aime. J'aime obtenir une certaine brillance aussi. La transparence, mais aussi de la brillance.
Mmh.
Et voilà, je choisis les matières pour obtenir cet effet.
D'accord. Et donc, alors là, j'imagine que tu es émerveillée après, une fois que l'œuvre est terminée.
Et oui, et je suis surtout émerveillée lorsque j'entends dire les gens « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau !»
Mm-hmm.
Ça fait plaisir.
D'accord. Alors, tu dis que l'art libère le corps et l'esprit de plein de choses.
Oui.
Oui.
Et oui, tout à fait. C'est-à-dire que en créant, on libère quelquefois, lorsqu'on en éprouve le besoin, tout ce qui nous dérange en nous, en fait.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que on laisse faire notre imagination, et c'est ça le lâcher prise que je disais au début. Plus on va lâcher, plus la création sera originale, en fait.
Ouais. Quand tu parles de lâcher prise, c'est quoi? C'est être dans le moment présent et puis faire selon l'intuition, faire comme ça?
Oui, selon l'intuition, laisser notre imaginaire se mettre en fonction et créer, laisser faire.
Mm-hmm. Et ça, c'est libérateur?
Ah, tout à fait.
Oui.
Tout à fait, qu'est-ce qu'on se sent bien après?
C'est de l'ordre un peu, j'ai l'impression, du nettoyage.
Oui, puis ça dépend de notre état d'esprit au moment, en fait.
Ouais.
Mm-hmm.
Donc toi, tu conseilles ça aux personnes de créer?
À tous mes patients.
Ouais.
Oui. Peu importe. Hein, laisser leur création se faire, ça peut être aussi bien de la peinture, de l'aquarelle, ou pourquoi pas de la couture, du tricot, du crochet, de la peinture sur soie. Être dans la créativité, quoi. Et faire ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Choisir les matières qu'ils ont envie de choisir.
Oui. Alors, non seulement c'est libérateur, ça permet de faire du nettoyage quand il y a besoin, mais en même temps, c'est une façon de s'exprimer et de dire qui on est.
Oui, aussi, oui. C'est-à-dire que chaque œuvre que j'ai réalisée correspond à ma vie du moment.
D'accord.
Voilà.
Donc, quand tu les regardes, tu te remets
je
en contact
sais,
avec...
Je me souviens.
la personne que tu as été à tel moment?
Oui, je me souviens, oui. Je me souviens quand je les regarde. Et je me souviens pourquoi j'ai fait ça, dans quelles conditions d'esprit, etc. Mm-hmm.
Alors, se définir comme artiste, je trouve que c'est fort. Comment on passe du loisir créatif chez soi, parce que c'est sympa, que ça libère, que ça permet de passer un bon moment, au fait de vraiment se sentir et s'assumer artiste tel qu'on est?
C'est le retour du public,
ouais,
qui nous guide, en fait.
D'accord.
C'est tous les retours que j'ai eus. Et tout le monde me disait, il faut exposer, Nadine, il faut exposer, il faut faire des expositions. Tu es une artiste, alors à force de l'entendre, ben je l'ai cru.
Ouais.
Et voilà, et j'expose, je fais quelques expositions à l'ancien collège au mois de juin avec les sculpteurs de l'espace Bourdel. J'expose également à Fronton, voilà, dans des petits villages proches de Montauban aussi, voilà.
D'accord. Alors, on est tous autant que l'on est artiste,
oui, hein.
Sauf qu'à un moment, il faut décider de le libérer.
De le libérer, oui. Et de montrer ses œuvres au public. Il ne faut pas avoir peur de ça.
Mm-hmm. S'exposer.
Oui.
Et là, justement, puisqu'on parle d'exposition, enfin, de création et d'exposition, tu cherches un lieu, on va le dire, hein, ça peut intéresser quelqu'un.
Oui, on ne sait jamais.
Tu cherches un lieu pour plus grand, pour créer.
Parce que actuellement, je crée chez moi.
D'accord.
Voilà, j'ai fait un petit atelier entre la table de la salle à manger et le fauteuil du salon.
Ah oui.
Voilà, et plus je crée, plus j'ai de matière automatiquement.
Mm-hmm.
Et je suis là à la recherche d'un atelier.
D'accord, pour arrêter d'être envahie et dans ton espace privé.
Oui, je commence à être vraiment envahie, donc ça devient urgent en fait.
D'accord. Donc, ben, si un auditeur nous entend et qu'il a un lieu à proposer pour une artiste mosaïste, il peut contacter CFM.
Tout à fait.
Et puis, te contacter toi parce qu'on mettra tes coordonnées sur le podcast de l'émission.
C'est bien.
Alors, Nadine, on parle d'exposition, on parle de public. Eh bien, tu as choisi d'écouter « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous » de Barbara.
Barbara, oui.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, mais j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous? Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. C'est le lac qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je lui fête à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mes temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fais infidèle, et vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fût doux. Oh, qu'il me fût doux, ce premier sourire. J'ai pleuré d'amour, vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'ai fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire ma plus belle histoire d'amour.
Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, Barbara. Alors, qu'est-ce que tu en dis après l'écoute? Qu'est-ce que tu as envie de dire?
Je suis encore dans l'émotion parce que j'éprouve un grand respect pour Barbara. Pour moi, c'était une grande dame.
Mm-hmm.
Et je me souviens, j'écoute souvent d'ailleurs ce CD. Et lorsqu'elle chante L'Aigle Noir, c'est merveilleux. Mm-hmm. Ouais, ça y est, je l'ai dit une fois de plus.
Ouais.
Voilà. Mm.
Alors, à qui tu t'adresses quand tu dis, toi, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous?
À ma famille.
Ouais.
Et tout mon entourage, mes amis. Et oui, c'est une belle histoire.
D'accord.
Tous les gens qui m'entourent, tous les gens que je connais, c'est une belle histoire.
Les personnes qui viennent voir tes expositions?
Aussi, c'est une belle histoire, c'est de l'échange, et c'est des bons moments, on passe ensemble, oui. Cet été, j'ai exposé, l'été dernier, 2014, j'ai exposé à Bruniquel.
Mm-hmm.
J'ai passé 2 mois à Bruniquel, et j'ai rencontré des gens de toute la France, mais aussi des gens de Suisse, des gens de Hollande, des Anglais. Et j'ai passé des moments merveilleux à Bruniquel.
Des histoires d'amour. Alors quand on parle d'histoire d'amour, on pense tout de suite à l'amour, le sentiment, tomber amoureux, etc. Mais il n'y a pas que ça dans l'histoire d'amour.
Il n'y a pas que ça. C'est des moments privilégiés, des petits instants, des petits moments qui nous nourrissent aussi. Et qui sont là dans notre mémoire. Et c'est important de revenir vers ces petits moments-là. C'est bon.
Et ouais. C'est aussi ce qui émerveille, hein.
Oui.
De vivre ces petits moments.
Oui, oui, oui.
Est-ce que tu as l'impression, comme Barbara, d'avoir fini le voyage et d'avoir posé tes bagages?
Non, c'est jamais fini.
Ouais. Bon, actuellement, en tout cas, tes bagages, ils sont posés à Mozac et à Montauban.
Oui.
Hein? C'est là qu'on peut te trouver.
Oui, c'est là que vous pouvez me trouver.
Ouais.
À Mozac, dans ce petit village proche de la Française.
Ouais. Où tu as un cabinet, donc, en sophro.
Voilà, j'ai un petit bureau que je loue chez les kinésithérapeutes et ostéopathes aussi. Et... c'est mon petit coin, voilà. C'est, je fais des séances de sophrologie en pleine nature puisque ce petit village le permet. Il y a des lacs à Mozac Et j'ai un cabinet aussi à Montauban, Faubourg du Moustier, au numéro 70.
Ouais.
Et pour que les gens n'aient pas la route à faire jusqu'à Mozac, voilà, c'est pour mes patients.
D'accord.
Toujours dans la même démarche de petite protection.
Oui, d'accord. Tu les chouchoutes et à Montauban et à Mozac. Et comme ça, ils n'ont pas la route à faire.
Tout à fait.
Tu animes aussi des ateliers de groupe, hein, en maison de retraite, en foyer d'accueil médicalisé.
Oui aussi, notamment à la FAM, F-A-M. Mm-hmm. C'est un foyer d'handicapés qui est à la Vitarelle, à Fontneuve. Donc là, je fais des séances individuelles et mm-hmm. également des séances de groupe.
D'accord. Voilà. Alors, les personnes intéressées hein, par les séances de sophrologie, qu'elles soient individuelles ou collectives, où est-ce qu'elles peuvent te contacter?
Sur mon adresse mail, ouais. Nadine Mangin, minuscule attaché, @hotmail.fr.
D'accord.
Par téléphone au 06 16 25 70 81.
Mm-hmm. Et tu as aussi ton site d'artiste.
Hein? Oui, tout à fait.
Où on peut aller regarder tes œuvres, à oui. défaut de les voir pour de vrai, oui. en exposition. Tout et c'est quoi l'adresse de ton site?
www.luniversdenade.fr. Mm-hmm. Mon nom d'artiste, c'est nade.fr.
D'accord. Et donc, on remettra toutes ces coordonnées sur le podcast. Ben voilà, il me reste plus qu'à te remercier, Nadine, pour ton merveilleux, j'utilise exprès le mot, ton merveilleux témoignage qui nous a apporté plein d'ondes positives.
Merci Dorothée de m'avoir accueillie ce matin.
Merci. Chers auditeurs, émerveillez-vous le plus souvent possible et au moins jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver samedi à 21h pour une rediffusion sur le podcast internet cfmradio.fr et sur la page Facebook Ondes Positives CFM Radio. Si vous voulez venir témoigner à votre tour de vos expériences positives, contactez-moi dorothée.alio@hotmail.com. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et à mardi prochain.
CFM, la douceur, l'harmonie, la quiétude, l'ivresse de la paix. Oui, bon, enfin, c'est tout de même du rock. CFM, le rock, la pop, le folk.